Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Église en danger. Et ce danger dont il est question, dont il va être question tout au long de ce séminaire n'est autre que l'esprit de Bélial. Et nous allons voir, comme je l'ai souligné, comment cet esprit, eh bien, se manifestait déjà dans l'ancienne alliance. Comment cet esprit est-il arrivé à séduire, à influencer, à manipuler certaines personnes déjà parmi le peuple de Dieu, parmi le peuple de l'ancienne alliance? Et comment cet esprit, mes amis, dès le début de l'Église, eh bien, cette Église est à l'œuvre, plutôt, cet esprit est à l'œuvre pour influencer l'Église, pour la faire égarer, pour la déstabiliser, la désorienter par toutes sortes de faux enseignements, mais aussi par toutes sortes de vies qui sont en abomination au Seigneur et au Seigneur seul. Nous allons lire un premier texte qui va donc nous servir, qui va quelque part jeter le base, ou qui va nous permettre à planter le décor. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Nous lisons, « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Point d'interrogation. Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Et quel accord entre Christ et Bélial ? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant ? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles ? Car, voilà la raison, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Église en danger. Avant d'aller plus loin, je voudrais que chacun de nous comprenne ce que le mot français ou le mot danger veut dire. Il est toujours important de s'arrêter un tout petit peu pour examiner un mot, pour regarder autour et alentour de ce mot, afin de saisir les différents sens ou les différentes nuances que ce mot transporte, quel que soit le contexte phraséologique dans lequel on l'utilise. Nous savons tous qu'un danger, c'est tout ce qui constitue une menace, oui ou non. Tout ce qui, quelque part, constitue un risque. Tout ce qui compromet l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Voyez-vous ? Donc, parler de l'Église en danger, par rapport à l'esprit de Bélial, c'est de voir comment l'Église essaye, plutôt l'esprit essaye par tous les moyens à déstabiliser l'Église, comment cet esprit essaye d'éloigner l'Église, mes amis, de sa trajectoire, comment nuire à l'existence même de l'Église, comment la ruiner. Parler de l'Église en danger, c'est parler de toutes sortes de risques que l'Église court si elle oublie sa vocation, qui est celle donc d'être la maison de Dieu. Alléluia. Donc, attendez, excusez-moi parce qu'il y a un peu de vent. Être en danger, c'est être dans une situation, c'est être dans une situation périlleuse, c'est courir le risque. Merci. Ce sont mes petites notes qui remplissent ma Bible. Donc, c'est être dans une situation périlleuse, une situation de risque. C'est de prendre un chemin qui peut vous conduire très loin. Donc, l'Église court toutes sortes de dangers. L'Église est exposée à toutes sortes de dangers. L'Église, mes amis, eh bien, n'existe pas sur une planète où il n'y aurait pas d'adversaires. Au contraire, l'Église est constamment attaquée depuis sa création jusqu'à ce jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle est menacée. Elle est en danger. Et un de ces dangers-là, qui a été aussi un danger pour le peuple de l'ancienne alliance, c'est bien l'esprit de Bélial. Alors, par rapport à Bélial, je sais que dans certaines versions, vous avez Béliar, voyez-vous, ou Béliane. Eh bien, ce sont des variantes du même mot, mais sinon, ça, c'est de l'araméen Bélial ou Béliel. Voilà. Donc, comme ça, vous avez compris. Si vous avez la version où c'est Béliar, eh bien, ce n'est qu'une variante du même mot. Je ne sais pas comment on est passé de Béliel à Béliar. Mais enfin, peu importe. Donc, c'est le même esprit. Cet esprit reste un danger permanent pour l'Église. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons savoir, nous devons connaître qui est cet esprit-là, quelle est sa nature, quel est son champ d'action, comment arrive-t-il à agir, et lorsqu'il agit, eh bien, quelles sont les conséquences? Eh bien, nous verrons. À partir de l'Ancien Testament, je prendrai quelques passages où nous voyons déjà cet esprit, cette pensée de Bélial se manifester et les résultats terribles qui s'en sont suivis. Et puis ensuite, nous reviendrons dans le Nouveau Testament pour essayer de voir, eh bien, quels sont les passages qui mettent en évidence l'action terrible, mortifère de cet esprit de destruction qu'est l'esprit de Bélial. Gloire à Dieu. Quel accord, quelle convention, quelle relation, quelle harmonie y a-t-il entre le Seigneur Jésus-Christ et Bélial? Voilà la question que l'apôtre Paul pose à l'Église aux Corinthiens. C'est une question rhétorique, c'est-à-dire qu'il ne demande pas de réponse de la part de ses lecteurs. Il est en train d'argumenter. Il voudrait montrer à l'Église de Corinthe, eh bien, quel est le temple de Dieu, qu'elle est constituée des hommes et des femmes, eh bien, qui ont été régénérés, des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, alléluia, de ce corps mystique. Et par rapport à cette Église-là, il les met déjà en garde en leur disant, eh bien, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de convention, d'alliance entre, d'une part, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ et d'autre part, Bélial. Et si Bélial n'a rien à voir avec le Seigneur, eh bien, cela veut dire que Bélial est appelé aussi à ne rien avoir avec l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Car l'Église, c'est le corps du Christ. D'où la nécessité pour l'Église de pouvoir discerner cet esprit-là, de voir comment il se manifeste, afin d'être à l'abri de son influence, d'être à l'abri de ses attaques. Nous devons savoir, frères et sœurs, que l'Église a toujours été attaquée depuis que le Seigneur est à l'œuvre sur cette terre, depuis qu'il a bâti par le Saint-Esprit, et ce, au travers de sa parole. Et puis, depuis là, mes amis, l'Église est confrontée à toutes sortes de choses qui essayent par tous les moyens de l'égarer, de l'écarter de Jésus-Christ. En d'autres mots, eh bien, depuis que le Seigneur est à l'œuvre dans son Église sur cette terre, eh bien, l'Église est exposée à plusieurs dangers, dont justement l'esprit de Bélial. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre ce que nous voyons. Mais nous avons à lutter contre les pouvoirs spirituels, contre les autorités démoniaques, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits impurs. Eh bien, parmi ces esprits impurs, il va être question de Bélial, car c'est un esprit, mes amis, qui ne s'accorde aucun répit, qui veut par tous les moyens nuire à l'Église de Jésus-Christ. Pour n'avoir pas compris qui est cet esprit, quelle est sa nature, comment se manifeste-t-il, eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes se sont laissés égarer, influencés de communautés entières, eh bien, ont connu des problèmes, justement, parce qu'ils avaient ouvert la porte à Béliel. Jésus a dit, vous le savez, Matthieu 18-16, où il dit, « Je bâtirai mon église et rien ne prévaudra contre elle. » En disant cela, nous avions déjà eu un séminaire là-dessus, en disant qu'il allait bâtir son église et que rien n'allait prévaloir, rien n'allait prendre le dessus sur son église, même pas les portes du séjour des morts, les portes du Hadès, le Seigneur montrait à ses disciples dans quel contexte il allait bâtir son Église. Un contexte de guerre spirituelle. Mes amis, nous sommes dans un conflit permanent entre d'un côté l'Esprit de Christ et de l'autre côté le diable, Satan et tous ses démons et tous ses esprits impurs. D'un côté le royaume des cieux qui se manifeste par et au travers de l'Église de Jésus-Christ. Et de l'autre côté, le monde, le royaume des ténèbres, qui est sous l'emprise du diable. Il y a donc un combat permanent. Nous devons en être conscients, car pour n'avoir pas eu cette conscience-là, nous nous sommes exposés à toutes sortes de dangers, à toutes sortes de problèmes. Et quelquefois, nous avons cru que les problèmes que nous avons rencontrés, soit dans notre propre vie, soit dans notre famille, soit dans notre église, nous avons souvent cru que ce n'était que des problèmes strictement humains, d'apparence au moins. Alors que dans la plupart des cas, derrière tout cela, il y a des forces spirituelles qui ne cherchent qu'à déstabiliser notre vie, qui ne cherchent qu'à créer un climat malsain, une atmosphère malsaine, et permettre ainsi à Bélial de se manifester d'une manière ou d'une autre. L'Église est attaquée de toutes parts, ça vous le savez, mes amis. Elle est soumise à toutes sortes de pressions de la part du monde, de la part du royaume des ténèbres. L'Église est la cible privilégiée du diable. S'il y a quelque chose pour lequel il serait prêt, même à vendre l'enfer, pour avoir un peu d'argent, s'il y a quelque chose pour lequel il serait prêt, mes amis, à offrir tous ses démons, eh bien, c'est bien l'Église. Il attaque par tous les moyens, mes amis. Il attaque d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi l'Église doit être aux aguets. C'est pourquoi l'Église doit veiller. C'est pourquoi l'Église doit connaître la nature de ses adversaires. Qui sont-ils? Alors, les connaissant, elle pourrait alors se servir de toute la panoplie spirituelle, de toute l'armure spirituelle que le Seigneur a mise à sa disposition. Alléluia. Car si tu ne connais pas ton ennemi, eh bien, il te serait difficile de pouvoir utiliser l'arme appropriée. Si vous avez affaire à un moustique, vous ne prendriez pas votre carabine ou votre kalachnikov et commencez à tirer sur un moustique. Un militaire qui agirait comme ça, parce qu'il y a une mouche qui le dérange, il gaspillerait ses munitions, oui ou non? Et quand le vrai adversaire se présentera, ça sera trop tard. Donc nous avons tout intérêt, mes amis. Telle est la raison d'être de notre séminaire. Ce n'est pas tant de vous donner un cours de démonologie sur Bélial, pas du tout. C'est vous donner quelques informations à partir de la parole de Dieu, et puis ensuite voir ensemble comment sur le plan personnel, comment sur le plan conjugal, comment sur le plan familial, comment sur le plan de l'Église, nous pouvons lutter contre cet esprit démoniaque, contre cet esprit séducteur qui attaque l'Église. Et quand je parle d'attaquer l'Église, eh bien je voudrais apporter une précision. En dénonçant certaines choses, je ne voudrais pas m'attaquer à une communauté. Il y a à ce jour, où il n'y a à ce jour aucune communauté, même parmi les pentecôtistes, qui puissent dire que dans leur communauté, c'est la perfection absolue. Il y a des failles partout. Il y a des erreurs partout. Parce que j'ai appris que ça s'agitait dans la ville. Quand le gens t'a appris qu'on allait avoir un séminaire sur Bélial, qui va-t-il encore dénoncer? Quelle église va-t-il attaquer? Etc. Je ne vais attaquer aucune église. Voyez-vous? Je voudrais simplement épingler des choses épingler des vérités qui permettent à nos communautés, qu'elles soient des assemblées de Dieu, qu'elles soient de l'église de Dieu ou des églises de réveil, peu importe la communauté, que les gens comprennent que c'est un esprit séducteur, que si nous ne faisons pas attention, il risque, mes amis, de nous emporter et de nous éloigner du Seigneur. Il y a des églises qui ont été détruites simplement parce qu'un jour, la porte s'est ouverte et cet esprit s'est infiltré. Il a semé beaucoup de zizanie. Il a créé beaucoup de chaos. Il a amené beaucoup, beaucoup de problèmes. Il a dressé les gens les uns contre les autres. Et résultat, l'église a fini par disparaître. Oui, certes, les gens continuent à se rassembler, à jouer le tam-tam, le piano, etc. Certes, les gens continuent à avoir le nom du Seigneur dans leur bouche, mais dans la réalité, le Saint-Esprit, le Seigneur, plus personne n'est là. C'est là que nous devons faire attention. Voyez-vous, car nous vivons des temps difficiles. Le Saint-Esprit, par la plume de Paul, nous met en garde. Il nous dit que dans les derniers temps seront des temps difficiles. Et aujourd'hui, mes amis, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Vous n'avez qu'à regarder peut-être dans votre propre famille. Combien sont encore dans la foi? Regardez autour de nous. Combien d'églises sont-elles encore dans la parole? Combien d'églises restent attachées à l'autorité du Christ? Voyez-vous? Dans le temps de la fin, dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément, que dit-il le Saint-Esprit? Dans les derniers jours, certains renieront la foi. Certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est la parole de Dieu qui nous met en garde, mes amis. Nous sommes à l'époque des apôtres. Déjà à cette époque-là, mes amis, le danger était présent. Voyez-vous, Bélial agissait déjà. Certains renieront la foi. Certains abandonneront la foi. Renieront ce qui en fait son essence, sa substance, et se retrouveront avec une forme religieuse. Et ensuite, non seulement ils s'attacheront à des esprits séducteurs, mais aussi à des doctrines des démons. Lorsqu'on parle des doctrines des démons, mes amis, on ne voit pas seulement toutes ces pratiques manifestes telles que nous les trouvons dans des sociétés mystiques et secrètes. Quand on parle des doctrines des démons, eh bien on ne voit pas seulement la magie, tous ces enseignements qu'on trouve à travers différentes loges mystiques, à travers différents mouvements ésotériques. Mais ici, nous sommes dans le cadre de l'Église. Voyez-vous? Ça veut dire que l'ennemi est tellement subtil, l'ennemi est tellement sournois, il est tellement intelligent qu'il finira par séduire certaines personnes en leur faisant croire que la doctrine à laquelle il s'attache vient de Dieu, alors qu'en réalité, c'est une doctrine des démons. Et nous en trouvons aujourd'hui, dans notre ville de Kinshasa, des pasteurs qui enseignent la réincarnation, des pasteurs qui enseignent que quelqu'un peut quitter son corps et aller se balader je ne sais où, et puis revenir. Ce sont des doctrines sataniques. Nous devons faire attention, mes amis. Ça vient sous le couvert de la vérité. À première vue, c'est inoffensif, mais bon, c'est rien. Mais attention, derrière, c'est du poison. Lorsque le diable a tenté Ève, il n'est pas venu avec un arc et une flèche, hein, en disant, écoute, pas du tout. Il est venu de manière intelligente. Oui ou non? Un vrai gentleman. Un beau parleur, un vrai dandy. Vous voyez? Il vient avec un langage séduisant, charmant. Ève. Est-ce que... Ouais. Il maîtrise très bien toutes les finesses de nos langues. Hein? Ouais. Eh bien, c'est comme ça, mes amis, qu'il arrive à séduire. Alors, il est de notre devoir de mettre l'Église de Jésus-Christ, où qu'elle soit, en garde contre toutes ces pratiques et ce faux enseignement. Donc, Bélial reste un danger auquel nous devons faire face, car il essaye par tous les moyens d'exercer son influence. Il essaye par tous les moyens de manipuler les uns et les autres. Il essaye de recourir à sa ruse pour éloigner les gens du Christ, mes amis, afin de mieux les achever. C'est un esprit pervers, nous verrons. C'est un esprit impur. C'est un esprit licencieux. Mes amis, à la base de beaucoup de relâchements de mœurs. Vous savez, ce que nous voici, en quoi nous assistons, le renversement, l'inversion des valeurs, le relâchement des mœurs, la confusion entre le bien et le mal, le fait que l'homme est de plus en plus mis en évidence et de plus en plus défié, eh bien, tout cela n'est pas le produit du hasard. C'est une influence démoniaque qui arrive à se manifester au travers du mysticisme, de l'occultisme, de la magie. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris l'influence que la prétendue civilisation égyptienne cachait, les mystères égyptiens, le mysticisme égyptien a exercé sur la société occidentale. Et comment cette influence est à la base même de la naissance de mouvements comme les hippies. Car un des enseignements de ce fameux livre de Todd, enfin je vous passe les détails, c'est que l'homme doit faire tout ce qu'il veut. C'est l'homme qui est la référence. Voyez-vous? C'est des enseignements de nature à éloigner les gens du Créateur et à faire des gens des Créateurs eux-mêmes. Donc, cet esprit, Bélial, cherche par tous les moyens à influencer l'Église, puisqu'il est question de l'Église. Nous retrouvons ces traces déjà à l'époque, à la fin du premier siècle, dans le livre de l'Apocalypse, mes amis, où le Seigneur s'adresse aux sept églises d'Asie. Voyez-vous? Donc, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. À chaque fois, le Seigneur met en garde son église par rapport à certaines choses, aux faux prophètes, à certaines influences mauvaises, et à l'église d'Éphèse et à l'église de Pergame, eh bien, le Seigneur met en évidence la présence et l'influence qu'une secte avait, secte qu'on appelait les Nicolaïtes. C'était une secte d'origine obscure. On ne connaît pas grand-chose sur cette secte-là, mais toujours est-il que c'était une secte portée sur des spéculations philosophiques, théologiques, comme aujourd'hui, hein. On enseigne n'importe quoi. Et puis ensuite, sur le relâchement des mœurs libertines, qui favorisaient la fornication, l'immoralité. Eh bien, ça, ce sont déjà, mes amis, les traces, les influences que nous trouvons par rapport à Bélial. Alors, comment cet esprit exerce-t-il son influence perverse, funeste, sur l'Église? Qui est-il? Quelle est sa nature? Comment se manifeste-t-il? Voyez-vous? Eh bien, nous allons essayer de voir comment cet esprit se manifeste. Nous allons prendre aujourd'hui un premier exemple. Allons dans l'Ancien Testament, puisque tout commence là-bas. Et nous allons examiner aujourd'hui, demain, vendredi, quelques exemples, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Nous sommes donc dans 1 Samuel chapitre 10. C'est avec Saul de Tarse, et plutôt Saul, ou Saül, le roi, enfin le chef, le conducteur d'Israël. Il vient de recevoir l'onction. 1 Samuel 10. Nous allons lire à partir du verset 21, donc, enfin, tout le contexte, chapitre 9, chapitre 10, eh bien, il est question de Saül, comment le Seigneur va faire de lui, donc, le premier chef, le premier conducteur d'Israël. C'est avec Saül que la monarchie, eh bien, est inaugurée. Cet homme va recevoir l'onction de la part du Seigneur pour pouvoir diriger son peuple, pour pouvoir, eh bien, être un outil entre ses mains pour la conduite de son peuple. Et au verset 21 jusqu'à 27, nous lisons, c'est Samuel, il fit approcher la tribu de Benjamin par clan et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, le fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau le Seigneur. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et le Seigneur dit, voici qu'il est caché du côté des bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Écoutez maintenant bien, verset 24. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que le Seigneur a choisi? Dieu a apporté son choix sur... Gloire au Seigneur, alléluia. Dieu a porté son choix sur Saül. Donc, le prophète proclame que celui que Dieu a choisi, gloire au Seigneur. Et puis il ajoute, il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. Tout le peuple lança une clameur et cria, vive, les gens sont dans la joie. Le Seigneur vient de faire quelque chose, il vient d'accéder à leur demande. Je ne vais pas regarder à la motivation, ce n'est pas le but de mon message, mais toujours est-il que, enfin le peuple a un roi. Vive le roi! Vive le roi! Quel roi? Saül. Nous continuons. Saül formula pour le peuple le droit de la royauté, et il écrivit dans le livre qu'il déposa devant le Seigneur. Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül s'en alla. Maintenant, je vais aller tout doucement pour que nous comprenions. Car c'est là que nous allons voir Bélial. Saül s'en alla aussi chez lui, à Gibéa. Il fut accompagné par les hommes de valeur, ou par des vaillants hommes, alléluia, dont Dieu avait touché, il le choisit, il met l'onction sur lui, mais il sait qu'il n'est qu'un homme. Il a besoin d'être bien entouré, alléluia. Il a besoin d'être avec des gens sages, des gens qui lui prodiguent de bons conseils, des gens qui marchent avec lui selon la direction venant de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur! Quelle grâce d'avoir des vaillants hommes avec soi et d'avancer! Quelle grâce d'avoir des gens qui vous donnent de bons conseils, voyez-vous, qui vous encouragent. Quand vous passez par le désert, ils sont là pour pleurer avec vous. Eh bien, Saül a eu cette grâce d'avoir des vaillants, des hommes vaillants, des gens qui l'ont suivi pour l'accompagner. Mais hélas, il y eut toutefois de vauriens qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül garda le silence parce qu'il avait jusque-là confiance dans celui qui lui avait donné l'onction. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je reviens un tout petit peu au contexte. Saül reçoit l'onction de la part du Seigneur par le biais du prophète Samuel. L'Esprit de Dieu descend sur lui. Alléluia. Si vous lisez le chapitre 9, le chapitre 10, vous verrez. L'Esprit du Seigneur descend sur lui. Saül prophétise même. Alléluia. Il parle de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tout le monde est content. La Bible nous dit que Dieu change son cœur. Ce n'est plus l'ancien Saül. C'est désormais un nouvel homme. Quelqu'un qui marche désormais avec le Saint-Esprit et sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde l'acclame. Eh bien, Dieu fait quelque chose et cela suscite de la joie auprès de son peuple. Jusqu'à ce que le moment arrive où l'homme doit partir, où l'homme doit s'en aller. Car s'il a été loin, c'est pour s'occuper du peuple, oui ou non? S'il a été loin, c'est pour être le général de son peuple, c'est-à-dire conduire le peuple lorsque la guerre se présente, amener le peuple à rester attaché à Dieu. Si le roi, c'est qu'il doit exercer sa royauté selon les normes telles que Dieu les avait établies par son serviteur Moïse. Mais Dieu, dans son amour, a touché non seulement le cœur de Saül, mais il a touché aussi des hommes autour de lui, ce que la Bible appelle ou nomme les vaillants hommes. Alléluia. Des gens de qualité, des gens appelés à soutenir Saül, comme Hur et qui et Aaron avaient soutenu Moïse dans ce combat d'intercession. Alléluia. Ils étaient de part et d'autre. Et Dieu a toujours agi de cette manière. Il n'a pas envoyé Paul seul. Paul est parti avec Barnabas. Et plus tard, Paul est avec qui? Avec Silas. Plus tard, est avec qui? Avec Timothée. Dieu ne fait jamais son œuvre par un seul individu. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes. Eh bien, c'est comme ça que Dieu travaille. Le travail de Dieu ne repose pas sur un individu. L'individu, quel que soit son charisme, quel que soit, mes amis, l'onction sur sa vie, aura toujours besoin des autres. Et s'il ne comprend pas ça, la même onction se comporterait comme un couteau tranchant contre lui. Voyez? Eh bien, il y a eu ces hommes-là. On plaise à Dieu qui nous donne d'être entourés des hommes et des femmes qui voient, qui partagent notre vision, qui nous amènent à aller au-delà avec le Seigneur. Alléluia. Des vaillants hommes et des vaillantes femmes. Mais c'était sans compter aussi avec Bélial. La Bible nous dit qu'il est parti dans son entourage. Il n'y a pas eu que des gens vaillants, des gens bien, des gens qui avaient été touchés par le Seigneur, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Dieu avait touché leur cœur. Il y a eu, hélas, les vauriens. Ah ben, c'est ici que Bélial montre le bout de son nez. C'est ici que Bélial se manifeste. Eh bien, ce qu'on a traduit par les vauriens, ce n'est qu'une interprétation. Ce qu'on trouve littéralement en hébreu, en cet endroit, c'est que Saül est parti avec des gens de valeur, mais il y eut aussi des fils de Bélial. Ah! Des fils de Bélial. Comment ces fils vont-ils se comporter ou comment se sont-ils comportés vis-à-vis de l'homme qui avait reçu l'onction de la part de Dieu? Eh bien, lorsque nous regardons au texte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces gens-là se sont caractérisés par un mépris permanent vis-à-vis de Saül, vis-à-vis de l'homme que Dieu a choisi. Bélial, le fils de Bélial. Ils méprisent Saül. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment celui-là nous sauverait-il? Il se regarde et dit, ah, Luc, toi tu penses vraiment que c'est l'homme qu'il faut? Regardez-moi comment il est. Il est petit. Hein? Attention, moi je suis grand. Hein? Comment il nous sauvera? Se poser ces questions, mes amis, c'est de se déclarer Dieu menteur. Car si Dieu l'a choisi parmi tous les fils d'Israël, si Dieu a placé son choix sur lui, eh bien, venir et dire, mais comment nous sauverait-il? Comment nous amènerait-il à la victoire? Eh bien, c'est une manière de dire que Dieu, c'est l'esprit de Bélial. Là où l'onction de Dieu descend, là où Dieu fait lever des hommes et des femmes, pour qu'ils servent la cause du royaume, pour qu'ils puissent contribuer d'une manière ou d'une autre à l'avancement de l'œuvre de Dieu, eh bien, Bélial est toujours dans le parage pour essayer de susciter des gens qui vous mépriseront, les gens qui chercheront à vous décourager. Qui est-il? Qui est-elle? Nous sauverait-il? Qui est-il? Poser la question de qui est-il, eh bien, se dire, mais il est qui? Donc, il n'est pas celui qui devrait être là. Qui est-il? Qui lui a donné ce pouvoir? Comment prétend-il être roi? Marcher à notre tête. Nous aurions aimé que ce soit toi. Souvent, c'est entre les fils de Bélial, là. Les fils de Bélial ont accompagné, hélas, Saül, non pas pour l'encourager, mais plutôt pour le mépriser. C'est donc un esprit de mépris. Nous n'avons aucune raison de mépriser qui que ce soit. Alléluia. Chaque homme est unique aux yeux de Dieu. Chaque femme est singulière aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu l'appelle, cette femme-là, nous devons de la respecter, quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine. Oh, Azamouyaka, en quoi ça te regarde? Vous voyez, mes amis, c'est un esprit de mépris, un esprit de découragement. Eh bien, ces fils de Bélial ont des attitudes de découragement vis-à-vis de Saül. Ces fils de Bélial ont des propos négatifs. Ce sont des gens qui jugent et qui tirent tout de suite la conclusion. Parce que juger, c'est mettre, essayer de comprendre. Eh bien, c'est normal, c'est inhérent à la nature humaine. C'est inhérent à la rationalité, ça fait partie de la rationalité de l'individu. C'est normal qu'on se pose des questions, mais tiens, lorsque Christophe m'a présenté le programme, j'ai dit, Minor, je ne voyais pas qui c'est. C'était normal que je comprenne. J'ai dit, mais qui va intervenir? On a parlé avec lui. Il m'a rappelé, il dit, mais il a dit, ah, ok. Ok, c'est Minor. Mais il est toujours minor. Hein, en attendant qu'il devienne majeur. Donc, on peut se poser des questions pour comprendre. Et non pas se poser des questions tout en ayant déjà, mes amis, des a priori négatifs. Tout en ayant déjà des préjugés. Vous voyez? Des idées toutes faites et arrêtées. Non, pas lui. Non, pas elle. Voilà. C'est comme ça. Et en agissant de cette manière, nous nous mettons en porte-à-faux avec celui qui construit l'Église. Parce qu'il appelle qui il veut. Il n'a pas besoin qu'on fasse des études universitaires pour qu'il nous appelle au ministère. Il n'a pas besoin, mes amis, que nous appartenions à tel clan, à telle ethnie, à tel pays. Non! C'est pourquoi bannissez le tribalisme de votre vie. Dieu appelle qui il veut. C'est pourquoi, personnellement, je suis contre tout mouvement. Écoutez-moi bien. Tout mouvement qui, dans ses statuts, prévoit qu'un missionnaire étranger qui viendrait dans ce pays ne pourrait pas diriger une église. Dire, agir comme ça, c'est se comporter comme étant le maître de l'église. Comme le chef, alors que lui, il est souverain. Il peut faire partir quelqu'un de Chine et l'envoyer ouvrir ici une église. Nous devrions être derrière pour dire et remercier même le Seigneur en disant, Seigneur, merci, car avec la présence d'un pasteur chinois, nous pouvons voir la diversité qu'il y a dans ton Église. Alléluia. Voyez-vous? Nous devons arrêter avec ça. Oh, c'est un Tutsi. Oh, c'est un Hutu. Ça, ce sont des choses qui nous tuent. Dieu appelle qu'il veut. Nous ne devrions pas juger les gens simplement à partir de leur faciès. En Europe, c'est un délit. Ah oui. Le procureur peut vous poursuivre. Ah oui, c'est un délit de faciès. Hein? Ouais. Vous pouvez vous retrouver en correctionnel à cause de ça. Ouais. Ici, chez nous, oui, on utilise... Ah oui, mais Yaza Mongala. Lui. Et là, tu parles quand même sa langue, non? L'esprit de Bélial, c'est un esprit, nous voyons dès le départ, qui se manifeste par le mépris vis-à-vis de ceux que Dieu a mis à part. Alléluia. Vis-à-vis de ceux que Dieu, eh bien, a appelés pour leur donner une tâche précise. Peu importe, ils peuvent être diaconesses. Voyez-vous? Elles peuvent être diaconesses, diacres, anciens, responsables de, comment? De la chorale, de tel ou tel autre département. Ce n'est pas un problème. Moi, je voudrais voir, c'est ma prière, avoir même des frères arabes convertis qui dirigent la réunion ici. Ça, nous devons vivre la diversité du corps du Christ. Paul, d'ailleurs, utilise l'image du corps pour nous montrer la diversité qu'il y a. Non seulement sur le plan des talents, le plan de ministère et tout ça, mais aussi sur le plan de la peau, sur le plan de la culture, oui ou non? Je voudrais être ici avec un frère irakien. Il y a des Irakiens, pourquoi on ne va pas leur apporter le message, les amener un jour ici? Voyez-vous, mes amis, une des manifestations déjà de Bélial. Les fils de Bélial se sont retrouvés dans le parage. Comme toujours, quand il y a l'onction qui descend, qui se manifeste par une mise à part d'un homme ou d'une femme, quand il y a l'onction qui se manifeste, c'est-à-dire le fait que Dieu pose sa main, pose son choix sur un individu, quel qu'il soit, eh bien vous devez vous attendre à ce que ce choix de Dieu entraîne une réaction de la part de certaines personnes que Bélial pourrait manipuler. C'est là que nous devons faire attention. S'il y a des sentiments de mépris qui sont là, des pensées négatives qui t'amènent à croire que l'autre ne vaut rien, mon ami, tu es en train d'ouvrir d'abord la fenêtre à Bélial. Fais très attention. Rends grâce à Dieu pour le choix qu'il a porté. Même si dans un premier temps ça t'a fait mal, tu aurais aimé diriger le groupe des mamans. Ah. Oui, oui. Non, les mamans sont sages à la borne. Tu aurais aimé diriger je ne sais quoi. Mais oui, c'est bien d'aspirer. L'apôtre Paul dit, mais nous devons aspirer à ce qui est meilleur. Mais tout en sachant que Dieu reste souverain dans l'octroi des dons, dans l'octroi des talents, dans ses appels, mes amis. Il appelle qui il veut. Donc, il a appelé Saül. Mais ces vauriens, ces fils de Bélial, manipulés par cet esprit, se sont levés pour décourager l'homme de Dieu, pour décourager le roi par des propos négatifs. Qui est-il? Oh, regarde, c'est vrai qu'il est grand de taille, hein, puisque la Bible, c'est un détail hein, que nous trouvons dans la parole. Il est dépassé de la tête. Donc c'était un vrai eucalyptus. Certes, il y avait des petits manguiers, des petits orangers, tout ça. Hein? Mais lui, c'était un éleucap. Donc, il faisait de l'ombre. Mais peu importe, je ne pense pas que c'est à cause de sa taille que Dieu l'appelait. Voyez? Même si c'était à cause de sa taille. Mais celui qui l'appelle, c'est aussi celui qui a permis qu'il mesure 1m95. 1m95. Toi, tu l'envies, tu n'as qu'un 1m50. Alors, tu trouves anormal que Dieu appelle cet homme-là. Tu pèches contre Dieu. Là, tu donnes l'occasion à Bélial de pouvoir, eh bien, t'influencer et contrecarrer l'action de Dieu. T'influencer et vouloir saper l'œuvre de Dieu, mes amis. Donc, ils sont là pour le décourager. Ils le méprisent par leur attitude, par leurs propos, par leur conduite, des paroles toujours négatives. Qui est-il? En posant cette question, croyez-moi, ils avaient, eh bien, tout un chapelet de réponses. Qui est-il? Il ne parle pas très bien. Qui est-il? D'ailleurs, regarde, il n'a aucune prestance. Qui est-il? Mais il appartient à la petite tribu de Benjamin. Ah! La petite tribu de... Il y avait de grosses tribus comme la tribu de Judas. Comme la tribu de Ruben. C'était de grosses tribus. Ah, qui est-il? Mais il est de Benjamin. Benjamin, la petite tribu là. Peut-il venir quelque chose de bon de la part des Benjamites? Voyez comment l'ennemi Bélial arrive à influencer les gens, à susciter en eux toutes sortes d'interrogations qui les amènent au mépris. Voyez-vous? A-t-il l'onction? Est-ce qu'il a la puissance? Quand il prêche là, il a la puissance? Les gens ne tombent pas. Il n'est pas tombeur des gens. Voyez? Est-ce qu'il a la puissance? Il ne parle même pas en langue. Derrière la chair. Est-ce qu'il a déjà jeûné 40 jours? Combien de temps prie-t-il par jour? Il y en a qui veulent savoir. Hein? Il dit, une heure. Oh, oh là là, nous c'est 3 heures, 4 heures, mais comment il peut avoir l'onction? Vous savez que même ça, ce n'est pas parce que tu as fait 4 heures, c'est bien. Ce n'est pas parce que tu as fait 2 heures. C'est bien faire 2 heures. La Bible nous demande même d'en faire plus. Mais ce n'est pas le nombre d'heures qui amène Dieu à nous visiter. C'est la qualité que nous devrions privilégier. Car vous pouvez être assis, vous dites, oh, je vais en retraite. Vous retrouvez là, vous ne pensez qu'au match de Vita. Vous êtes en retraite, mais le chef aime tout le temps. Facebook, et là, il a accouché. Vous êtes en retraite. Quand vous revenez, eh bien, vous voulez que tout le monde sache que vous avez fait une semaine de prière et de retraite. Là, vous prenez des allures un peu spirituelles. Voyez? Ah, bonjour, frère. Ouais. Alors qu'en réalité, vous avez plus passé le temps avec votre Facebook. Oui, oui. Vous voulez savoir, ok. De messages, des SMS. Dis-moi quand il va passer. Ok. Okay. Et puis, si vous aviez un GSM comme le, motre, comme le mien, c'est un petit coucou. Donc, voyez-vous, il n'a pas de puissance, il ne prie pas assez, il ne prêche pas bien, voyez-vous. Bref, ce n'est pas le type, l'homme ou la femme qui devrait être là. Voyez, ça c'est l'esprit de Bélial. C'est un esprit de mépris, voyez-vous. C'est un esprit qui amène les gens à créer un contexte malsain, où on n'entend que des remarques négatives. On entend, mes amis, que du mépris, que de propos négatifs. Vous voyez, les gens chercheront une petite chose pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça, ce sont les gens de Benjamin. Ils sont toujours comme ça, etc. Mes amis, nous devons éviter tout faire pour ne pas tomber sous l'influence de Bélial. Voyez, il s'exprime par des attitudes de mépris. Il s'exprime par des propos de découragement. Voyez, vis-à-vis de ceux que Dieu a appelés. Alors que le Seigneur appelle chacun de nous à travailler en synergie pour faire avancer son œuvre, alors que nous avons besoin de nous encourager mutuellement. Voyez-vous? Non, lui, eh bien, va aller à l'encontre de tout ça. C'est du mépris, c'est le découragement, c'est des attitudes négatives, et enfin, à force d'entendre tout le temps de remarques, voyez-vous, on a beaucoup découragé, et quelquefois dans certaines églises, il y a des pasteurs qui dépriment, il y a des pasteurs qui n'ont plus le courage de continuer, parce que, hélas, Bélial, eh bien, a de plus en plus ses pions dans l'église, et ils sont là que pour le mépris, ils sont là que pour dire des choses négatives. Des gens qui s'opposent toujours, voyez-vous, à chaque fois qu'on veut aller dans... Non, est-ce que Dieu a dit? Voilà. Ah bon, donc Dieu ne peut parler que par vous. C'est comme le pasteur Peter Schmidt, que certains d'entre nous doivent connaître. Puisqu'il est passé ici à la borne, il était encore jeune, très jeune. C'est lui qui nous avait appris le petit chant. Moi, viens aller à casa papa moi, à casa papa moi, à casa papa moi. C'était lui, Peter Schmidt. Il nous a dit une fois, enfin, je lui avais rappelé ça, on était avec mon épouse. Il a dit, mais c'est formidable, tu te souviens de tout ça? J'ai dit oui. Ok, bref. Ils nous avaient partagé les problèmes qu'ils avaient eu dans leur église à Mulhouse. Son père était pasteur. À un moment, le Seigneur lui avait mis à cœur de commencer quelque chose. Il présente au comité, oh là là, les anciens. Non. C'est pas possible. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Ils lui ont créé des problèmes. Voyez-vous? Mais lui a persévéré. Il savait que ça venait de Dieu. Résultat, eh bien, ces anciens ou certains responsables ont pris certaines... Les gens de l'église sont partis. Ils se sont retrouvés en petit nombre. Oui. Il nous a dit, il voyait son père souffrir, mais tenir bon. Alléluia. Ils ont prié, ils ont persévéré. Aujourd'hui, l'église Portes Ouvertes de Mulhouse, mes amis, est une église de référence. Non seulement en France, mais dans toute l'Europe, à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez? Il y a eu les fils de Bélial qui ont voulu décourager. Heureusement, le pasteur, ses enfants avaient persévéré. Ils ont tenu jusqu'au bout. Bélial est là pour décourager. Bélial est là pour mépriser. Alors, mon frère et ma sœur, si vous avez des gens qui viennent toujours pour parler du mal de tels responsables, désormais, dites-leur non, frère. Désormais, c'est fini. Dites au moins de bonnes choses. Vous revenez toujours des mépris. Quand vous prenez la parole, c'est toujours pour décourager. C'est toujours pour dire, ah oui, mais Dieu n'a pas parlé. Ah oui, mais lui n'a pas la puissance. Ah oui, mais lui, il n'aurait pas dû, etc. Tu es en train de juger Dieu. De dire à Dieu qu'il s'est trompé dans son choix. Et en agissant de cette manière, tu te mets toi-même, mes amis, dans une posture très dangereuse. Tu ouvres la porte à Bélial, et Bélial t'influence. Et Bélial, eh bien, tu utilises de plus en plus, au lieu que tu aides ton pasteur, au lieu que tu l'encourages, tu bénisses la diaconesse, tu bénisses tel ou tel autre responsable. Non, parce que toi tu parles très bien, parce que ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur, alors que la personne qui assume la responsabilité, c'est à peine 8 ans. Oui, mais Dieu est souverain, mes amis. Oui. Comme on ne peut mieux parler que de soi, je me souviens, la première nuit de prière, c'était là, en 85-86. Nous étions avec le pasteur, madame peut-être pourrait se souvenir. On a prié jusqu'à minuit, le pasteur et son épouse sont partis. Aurelio, qui était le premier responsable de jeûne, qui aujourd'hui aussi est dans le ministère, Aurelio... À un certain moment, lui aussi devait partir. Alors il s'est tourné vers moi, je me souviens très bien. Il m'a dit, frère Bondo, voilà, moi je vais partir. Tu vas diriger la nuit de prière. Oh là là. Je l'ai regardé. J'ai dit, moi? Je venais de me convertir au mois de janvier. Hein? Oui? Elle a dit, oui, oui. Alors il m'a donné des conseils. Il dit, voilà, il ne faut pas laisser les gens parler beaucoup. Il savait déjà, etc. Ok, il est parti. Mais bon, je me suis débrouillé tant bien que mal. Le Seigneur a béni jusqu'au petit matin. J'ai fait témoigner les gens. Évidemment, je n'avais rien. Je connaissais à peine la Bible. Donc, je prenais... On priait. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Ok. Quelqu'un ceci. C'était ma première nuit... Le premier réveillon que j'ai dirigé ici, je n'avais à peine, j'allais avoir à peine une année dans la foi. Vous voyez, ça c'est Dieu, mes amis. Alors, ne laissons pas la porte à Bélial. Voilà la première manifestation de cet esprit, par le mépris dans l'entourage de ceux que Dieu a mis à part, par les paroles de découragement, par une conduite, mes amis, qui décourage, par des attitudes aberrantes et qui créent des problèmes. Car quand vous avez beaucoup de fils de Bélial dans une assemblée, malheur à vous. Parce qu'ils verront toujours tout en négatif, tout en mal. Vous voyez, non, c'est pas comme ça. Non, mais lui, il lève trop les mains. Vous savez, c'est ça Bélial. Il peut te distraire, mais en quoi ça te dérange qu'il lève trop les mains? Quelqu'un, enfin, je ne sais pas dans quelle culture, on m'a fait une fois la remarque, parce que quelqu'un m'a rapporté, ce jour-là, je ne sais pas si c'était un dimanche, il y avait la grâce de Dieu comme aujourd'hui, je me suis mis à genoux, dos tourné là-bas. Oh là 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 là. Pour certains, c'était tout un problème. Où est-ce qu'il est dit que, où la Bible nous dit la direction dans laquelle nous devons toujours nous prosterner? Où? Peut-être par commodité, mais il y a des choses, dit, écoute, peut-être que la personne est tellement branchée sur Dieu qu'à un moment, je me suis mis à genoux, moi je n'ai pas pensé à tout ça. Voilà, ça peut être un problème. Oui. Donc vous voyez, des fois, des petits trucs de rien du tout. Ça peut nous paraître anodin. Ça peut nous paraître quelque chose qui ne soit qu'un artifice, un petit artifice. Mais derrière tout cela, il y a cet esprit Bélial. Et peu importe la forme de son influence reste toujours une influence néfaste à l'Église. Alors apprends à encourager le frère avec qui tu es, la sœur avec qui tu es, les gens avec qui tu travailles, encourage-les. Voyez, vois aussi les choses comme Dieu le voit. À ce moment-là, tu contribueras d'abord à ta propre bénédiction. C'est comme dans le couple, il arrive à un certain moment, il y en a qui ne voient que le défaut de l'autre. Ouais. Oh là là, c'est pas possible. Regardez comment elle marche. Oh, Seigneur. Oui, mais après oui, maternité, peut-être qu'elle est fatiguée. L'homme, c'est la même chose. Oh, il commence à marcher comme ça. Mais cherche à savoir pourquoi. Mais oui, il y a peut-être un problème de santé. Hein? Il y a des choses qui arrivent, tout d'un coup, la jambe commence à se raccourcir. Mais le temps que le médecin découvre, mais entre-temps, ça te déforme un peu. Et la femme ne voit que ça. Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Trop tard. Eh bien, voilà la première manifestation de Bélial. Bélial est pour la peau. Nous allons prier. Nous allons prier. Demander au Seigneur de nous aider.